Et bonjour à tous. Les nouveaux chemins se déplacent la pipe au bec et sur la pointe des pieds tous les jours en compagnie de Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Tristan Grenassia et Antoine Ravon. À la réalisation d'Hélicoptère, cette semaine Nicolas Berger. À la lecture burlesque Jean-Louis Jacopin, avec aujourd'hui à la prise de son tatiesque Dophar Guéride.
Hélicoptère.
Quand l'horloge indiquera 11h51, ce sera l'heure pour Géraldine Mosna-Savoie d'appuyer sur les boutons pour ouvrir la porte du studio.
Alors,
Les 2 minutes papillon de Géraldine aujourd'hui vous donneront envie de lire « Dans la nuée, réflexion sur le numérique » de Byung-Chul Han, paru aux éditions Actes Sud.
Jacques Tati vient de terminer « Plaît à M », le film mystère de l'année. Pendant toute la durée du tournage, il a refusé les interviews. Seul notre collaborateur Charles Chabou a pu avoir accès à son plateau.
Et sur le plateau, on y découvre des gratte-ciels grandeur réelle qu'on déplace sur des roulettes. Un aéroport reconstitué de toutes pièces. Un drugstore en construction et des voitures bien garées. Bienvenue dans Tativille, projet titanesque contre tout bon sens. Mais Tati, à l'image de son personnage, Monsieur Hulot, n'aime pas le bon sens. Il glisse, tombe et se cogne, laisse partir le bus qui lui enlève sa bien-aimée et se retrouve à vendre des produits par peur de dire non. De ratage en décalage, Hulot est toujours un demi-ton en dessous de la mélodie ambiante, à contre-temps du rythme social, sorte de clinamen en chair et en os qui introduit un peu de désordre grinçant dans cette mécanique bien huilée. En 1900, Henri Bergson fait paraître un ouvrage sur la signification du comique. C'est Le Rire, son 3e livre, qui donne au XXe siècle naissance et lettres de burlesque. Peu après, ce sera Charlie Chaplin, puis Buster Keaton, plus tard encore, les Marx Brothers. Né en 1908, Tati vient après les autres. Jour de fête, sorti en 1949, est un premier film né à l'issue de plusieurs années de formation physique et artistique qui s'ajoute à l'univers du music-hall. De film en film, Tati gagne en notoriété et prend des risques énormes. Comme Playtime, qui en 1967, après des années de préparation et des millions de francs investis, connaîtra un accueil digne des meilleures chutes de Monsieur Hulot. Alors pourquoi Tati n'est-il pas devenu le Charlot des temps modernes? Pourquoi celui qui peut anéantir son partenaire au tennis par la seule force de son coup droit n'a-t-il pas su rester dans l'œil de son spectateur? Du musical au burlesque, de l'image son jusqu'au cinéma grandeur nature, de l'homme désarçonné par son milieu jusqu'à la mélancolie respectueuse d'un monde qui nous échappe, Tati explore le décalage entre un homme toujours seul et un univers mécanisé qu'il est trop poète pour dénoncer. Chez Tati, le son est plus important que les dialogues. La narration est dans l'image, le temps est patient et répétitif, la mélancolie jamais larmoyante, et jamais l'étrangeté du monde n'a été filmée de manière si radicale et bouleversante. C'est ce qui en fait l'un des rares cinéastes philosophes qui va nous accompagner chaque jour de cette dernière semaine des nouveaux chemins. Car le grand, l'immense Tati, serait-il tombé dans l'oubli?
Jacques Tati, c'est un cas incroyable, oui, oui. Non, c'est pas qu'on l'oublie, je ne pense pas. C'est que le cinéma est devenu très dur pour des gens comme lui, pour des perfectionnistes. Je me souviens que peu de temps après la sortie de Mon Oncle, il préparait ce film Playtime, et qui est sorti finalement 10 ans après. Et moi, je suis allé à la première de Playtime en me disant, c'est un événement fantastique, ce type qui a mis 10 ans à faire ce film. Et c'est une grande cabine là-bas à l'Empire. Vous savez, à la fin du film, je me suis retourné, je l'ai vu en bras de chemise dans la cabine, la haute projection. C'était vraiment bouleversant. Et en même temps, c'était très triste parce que le film était trop long. Il y avait eu un entracte au milieu, ce qui était très mauvais pour un film comme Puis après, le film a été réduit de 20 minutes dans les 15 jours suivants, puis encore de 20 minutes. C'était un très beau film. Simplement, effectivement, c'est le cas, si vous voulez, de quelqu'un qui a eu un moment un rendez-vous avec le public et qui ne l'a plus parce que, entre-temps, surtout dans le cinéma comique, les modes comptent beaucoup. C'est-à-dire, si on croit qu'on a un public et que ce public vous sera fidèle toute la vie, peut-être c'est vrai pour un écrivain, je ne suis même pas sûr. Pour un cinéaste, c'est absolument illusoire.
Regarde, tu fais attention.
Mais viens ton foulard, viens ton. Tu vas prendre feu.
Bonjour Stéphane Goudet.
Bonjour.
Bienvenue sur le Nouveau Chemin.
Merci.
Et dans sur le plateau de tournage de Tativille, puisqu'on entend le début de Playtime dans l'aéroport. Vous êtes critique de cinéma, maître de conférence en cinéma à l'Université de Paris 1, et à nouveau directeur artistique du cinéma Le Méliès à Montreuil. Bravo à vous. Et c'est donc avec vous que nous allons commencer cette semaine sur Tati. On a entendu la voix de Truffaut. C'était en 1975, une radioscopie diffusée sur France Culture. Truffaut qui évoquait l'ambiance et l'accueil de ce film Playtime lors de l'avant-première. Lui dit qu'il est bouleversé par le film, en même temps il décrit bien l'espèce de catastrophe en réalité qu'a suscité ce film. Comment expliquez-vous qu'il était si mal reçu ?
Alors Truffaut donne une partie des explications. C'est vrai que l'entracte, par exemple, d'un avis général, y compris de Tati lui-même, était une vraie erreur. Couper le film au milieu, avant même d'ailleurs que la poursuite ne s'achève, puisque la rencontre entre Giffard et Hulot n'a pas encore eu lieu, que l'entracte arrive. Et donc, sur un plan narratif, ça n'a vraiment pas de sens. Sur un plan rythmique, c'est absurde. Sur la question de la longueur, Truffaut évoque deux coupes de 20 minutes. Il se trouve qu'on a rétabli les 20 minutes numéro 2 qui ont été coupées dans la version restaurée par François Hed et qu'on est très content de les avoir rétablies parce qu'elles sont décisives et aujourd'hui, personne ne considère que ce film est trop long. Et par ailleurs, non, c'est intéressant de commencer par Truffaut parce que Truffaut, c'est aussi le symbole de l'ambivalence de la réception critique et puisque Truffaut était d'abord critique avant d'être cinéaste et d'une réception aussi des confrères de Tati par rapport à son œuvre, parce que Truffaut est quand même dans un premier temps le digne héritier de son père spirituel qui est André Bazin, qui est le premier à faire un texte absolument génial qui s'appelle Monsieur Hulot et le temps sur les vacances de Monsieur Hulot. Et donc dans un premier temps, Tati devient une espèce de grand-oncle de la nouvelle vague naissante. Et puis tout à coup arrive mon oncle en 58, c'est-à-dire au moment où tout à coup la nouvelle vague change de statut et devient celle de réalisateur, de jeune réalisateur. Et là, Truffaut fait un texte, un premier puis plusieurs textes très sévères sur ce film-là, notamment un texte qui déconstruit entièrement le film en parlant de son univers concentrationnaire et du fait que le rire est étouffé par le message que veut envoyer Tati et par sa systématique. Et tout à coup, là, les rapports se compliquent entre Truffaut et Tati jusqu'à ce cette séance que Truffaut évoque, c'est-à-dire la découverte de Playtime en avant-première, et où là, émerveillement total, Truffaut est de nouveau saisi par le génie de Tati. Et là, pour le coup, il va lui écrire dans une lettre fameuse, mais il va aussi lui rendre hommage dans les films même, puisque dans Domicile conjugal, il y a une séquence entière qui est une séquence de remake de la salle d'attente de Playtime. Voilà, geste critique et créateur assez rare, ce qui recompose entièrement la scène avec des acteurs de Playtime pour définitivement affirmer son admiration. Il fait d'ailleurs une demande à Tati qui est que Tati joue dans Domicile conjugal. Tati finit par refuser mais envoie sa propre doublure de sorte que Monsieur Hulot, joué par un autre que Tati, apparaît dans le film de Truffaut.
Comment expliquer l'incompréhension que suscite Tati avec ce film, notamment Playtime, puisque vous l'avez rappelé, les vacances de Monsieur Hulot et mon oncle connaissent un succès qui le font connaître de par le monde, pas simplement en France. Avec Playtime, l'accueil est plus mitigé, voire pire. Est-ce qu'on peut remettre ça sur le compte de disons, son innovation dans la manière de faire rire? Déjà, il est mal vu de faire rire au cinéma, et là, en particulier, il y a une sorte de réinvention du burlesque.
Alors, si on veut faire la filiation de la réception critique par Tati, en fait, il faut vraiment remonter à Mon Oncle d'abord, parce que la première scission, c'est sur la présentation cannoise de Mon Oncle en 58, où là, il y a vraiment deux camps qui s'affrontent, ceux qui le soutiennent et pensent qu'il mérite la Palme d'Or, qui va frôler de très peu, et puis ceux qui pensent que tout à coup se dévoile Tati sous un jour plus politique et qui, pour eux, pose problème. Voilà, c'est le fameux texte de Bazin qui s'appelle « Mon oncle est-il réactionnaire ?» auquel il conclut que non, et qu'il l'est pas davantage que Chaplin dans les temps modernes, sauf que malgré tout, la question est désormais posée, et du coup, ça va donner un angle d'attaque d'une certaine critique, notamment de gauche, qui va prendre ses distances vis-à-vis de la vision de la modernité donnée par les œuvres de Tati. Pour Playtime, c'est effectivement un peu différent. Il y a l'idée qu'à partir du moment où Tati a atteint les sommets, c'est-à-dire de très grands succès publics, a eu l'Oscar du meilleur film étranger en 59 pour Mon oncle, il a été reçu par De Gaulle à l'Élysée, qui d'ailleurs savait pas trop qui c'était. Mais donc là, on a l'impression que ça devient presque le cinéaste officiel. Il fait ce choix de vie absolument extraordinaire et qui reste bouleversant, de suspendre l'écriture et la réalisation d'un film qu'il considère comme, je cite, trop facile, qui deviendra L'Illusionniste, réalisé en film d'animation par Sylvain Chomet, et il se lance dans l'aventure de Playtime qui va prendre 9 ans de sa vie. Et là, bon, de toute évidence, il prend tous les risques, enfin à tout point de vue, parce que c'est vrai que c'est un film fou, complètement mégalomaniaque, et c'est ce qui lui sera reproché, qui va innover en tout domaine, notamment sur le plan narratif, mais aussi sur la question du statut du héros, qui va innover techniquement, puisque c'est un film en 70 mm, et que, on le sait aujourd'hui, les salles françaises n'étaient pas équipées pour projeter du 70 mm, donc il ne pouvait être diffusé que dans très peu d'espace sur le territoire français, de sorte que le pari de Tati sur Playtime, c'est que son film triomphe à l'international, et particulièrement aux États-Unis. C'est un film vraiment aussi fait pour répondre aux Américains, pour dialoguer avec eux. Or, les distributeurs américains qui pourtant ont diffusé les autres films n'en voudront pas du tout. Et le film ne sortira que dans quelques villes après la sortie de Trafic. Voilà, donc là, il y a une espèce d'incompréhension, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, il va tellement loin qu'effectivement, on a du mal à le suivre. Ce qui n'est pas vrai pour certaines revues cinéphiles. Les Cahiers du cinéma vont tout de suite montrer l'importance de Playtime. Et quand le film ressort en 79, ils lui accordent pour la deuxième fois la couverture de leur revue. Mais à côté de ça, il y a effectivement des textes extrêmement durs, notamment dans Positif.
Dans un film comique, tous les gens réalisaient ce qu'on appelle des gags, et que personne sur l'écran ne s'apercevait des intentions et des problèmes de quelqu'un, ou avec une voiture, ou avec une guêpe. Et dans mon cas, j'ai toujours mis, non pas seulement les spectateurs, en leur disant... avec un clin d'œil, venez avec moi derrière une caméra, nous allons pouvoir voir différentes choses. Mais les acteurs du film en disant, du moment qu'il y a un bateau qui se referme, qui se coupe en deux et que ce type est prisonnier de ce bateau, il est certain que les gens qui sont sur la plage doivent le voir comme nous. C'est donc ça. C'est apporter une plus grande réalité à l'effet comique. C'est ce que j'ai essayé de faire dans Playtime et ce qu'on m'a reproché parce que j'avais effacé volontairement le personnage de Monsieur Hulot. Bon. Pourquoi ? Parce que je trouve que en apportant l'effet comique comme dans Playtime du petit monsieur qui appuyait sur les boutons pour annoncer les arrivées, les gens qui venaient s'installer, qui demandaient des renseignements dans cet immeuble. Il y a une vérité dans le jeu de cet acteur qui hésitait vraiment d'appuyer sur ses boutons parce que c'était pas... Il était dépassé par les ingénieurs. Et on aurait voulu que ce soit Hulot qui appuie sur les boutons. Or, ce personnage le faisait beaucoup mieux que M. Hulot aurait pu le faire.
Alors, demande le 442. Je répète. 2.
1.
Non. Pas 1. 2.
1.
Oui.
On sait que les grossesses prolongées produisent des monstres. Quand un auteur comique met 4 ans à concocter 2 heures de fou rire, il est normal, il est juste, il est moral, il est clinique que le bébé soit sinistre, bancal, louche et rasard. Monsieur Jacques Tati, dont l'exercice favori consiste à se comparer favorablement à Chaplin et à Keaton, prépare lui-même le cercueil de béton qui l'engloutira dans les eaux compatissantes de l'oubli. L'attitude de plésiosaure qu'il choisit d'adopter vis-à-vis d'un monde moderne qu'il n'a même pas écouté, son incapacité à choisir entre le tintamarre et l'insonorité, lui donne 300 ans de retard sur les temps modernes et la maison démontable. Sa méconnaissance rétrograde des lois élémentaires du gag, proposées par Avery, Jones ou Emile Cole, il croit encore aux vertus de la simple répétition, sa démagogie de butor à la traîne sur les René Clair de 1920, le milliardaire américain et l'ouvrier en salopette trinquent au gros rouge dans un drugstore ramené au bistrot bien-aimé d'un trisaïeul concierge, eh bien tout cela fait de Playtime, Dullsville, Funless, Bore City, Snortown et Lullaby Grad. Et si, Stéphane Goudet, et si l'incompréhension et la violence des réactions qu'a suscité Playtime, j'ai lu un extrait d'un article de Robert Benayoun, hein, c'était dans Positif pour le coup en 68, où on voit bien que lui, il refuse complètement le projet de Tati, pouvait être expliqué par l'innovation burlesque que propose Tati. On l'a entendu justement dans une voix, on entendait sa voix assez abattue, hein, c'était en 77, où finalement il expliquait pourquoi Hulot n'était pas de tous les plans. Or, dans l'héritage burlesque, que ce soit Charlot ou Keaton, que cite Ben Ayoun, effectivement, c'est le personnage qui incarne le burlesque. Dans Playtime, eh bien, parfois, Hulot disparaît pendant un quart d'heure et revient. On substitue le comique d'observation au comique du personnage. Peut-être est-ce là que parle l'incompréhension.
Oui, c'est évidemment une des explications dont Tati était très conscient lui-même. C'est-à-dire que les gens allaient voir Jacques Tati, acteur, mime, génial par ailleurs, dans le rôle de Monsieur Hulot, et tout à coup il ne le voyait pas, ou par intermittence. Par ailleurs, la citation de Ben Ayoun se fonde aussi sur un discours de Jacques Tati lui-même, qui considérait qu'il avait une place très précise dans l'histoire du genre, et elle a précisément à voir avec cette question. Tati a souvent expliqué, ce qui paraissait à ses contemporains parfois prétentieux, qu'il avait un apport possible dans l'histoire du genre, et que le genre lui-même était fondé sur une forme de grande démocratisation progressive, c'est-à-dire que le genre commençait avec des figures d'aristocrates, c'est évidemment Max Linder, son chapeau de forme, etc., que va copier Chaplin, donc du coup ça se décline, Chaplin, certains rôles de Keaton, et on voit bien que là Tati joue avec les personnages dans les films et la figure d'une sorte d'aristocratie du rire où un seul personnage est habilité à faire rire. Ensuite, le burlesque va inventer des duos comiques, donc en reprenant certaines figures du cirque, donc Laurel et Hardy évidemment, et puis progressivement le burlesque va être partagé, ce sont les Marx Brothers évidemment, et il citait un dernier jalon qui est le film Elsa Popine. Voilà, et il disait, moi je m'inscris dans ce mouvement historique, c'est-à-dire que dans mes films à moi, désormais, tout le monde est apte à faire rire et il est hors de question qu'on attribue uniquement au héros, comme par hasard joué par le réalisateur, la possibilité de faire rire ses congénères. Et effectivement, quand on voit l'œuvre de Tati, il y a véritablement ce désir-là d'innover de ce point de vue, c'est-à-dire de dire, voilà, le petit ouvrier, là, il a tout à fait le droit et le pouvoir de faire rire, ce qui est très joli dans ce que racontait Tati d'ailleurs, avec la séquence du gardien face à ce mur de boutons, là, de la machine à communiquer, joué d'ailleurs au passage par un certain monsieur doyen, ce qui tombait plutôt bien, c'est qu'évidemment, Tati lui a montré, mais seconde par seconde, comment jouer ce personnage de l'homme face à cette machine qui l'écrase. Et ensuite, le personnage lui apporte sa propre corporéité. Et là, tout à coup, effectivement, il a une puissance que seul son corps est en mesure d'avoir. Voilà, donc cette filiation dans l'histoire du burlesque va l'amener d'ailleurs à soutenir certains cinéastes au détriment d'autres. Un rapport très conflictuel symboliquement avec Charlie Chaplin, qui va aller voir en cachette sans jamais en parler à personne d'autre qu'à sa fille, et en même temps va l'amener à affirmer véritablement ce qui le distingue, et vous avez raison, c'est tout à fait du côté de l'ordre de cette observation permanente qui est passionnante à analyser chez Tati, puisque c'est d'abord le geste en amont de son cinéma, c'est-à-dire qu'il expliquait, moi mon bureau c'est la terrasse du café d'à côté, avec d'ailleurs des habitudes un peu particulières, c'est-à-dire quand il invitait quelqu'un à dîner, au lieu de manger en face de lui, il mangeait côte à côte, et là ils observaient le monde en utilisant des métaphores comme la terrasse, un des premiers textes dans Positif au moment des vacances du Monsieur Hulot porte vraiment là-dessus, c'est-à-dire ouvrir une baie sur le monde, ouvrir une terrasse, et là tout à coup on voit les gens entrer dans son cinéma personnel, et ce qu'il faisait souvent c'est qu'il doublait les gens à l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'il imaginait le dialogue qui était en train de se jouer, et là tout à coup il se mettait à produire de la fiction, évidemment. Voilà. Donc son cinéma naît de l'observation, nécessite aussi un passage par le geste d'observation dans l'image. La figure absolue, ce serait la commère dans Jour de fête, où tout à coup, le personnage plié en deux commente les actions des uns et des autres et fait le lien entre les espaces, mais permet aussi de raconter des petites anecdotes. Et puis surtout, l'observation, c'est ce qui est exigé de nous comme spectateurs, c'est-à-dire qu'on ne prend du plaisir à l'œuvre de Jacques Tati que si nous sommes nous-mêmes dans une activité très forte.
C'est ça. En fait, à partir du moment où le burlesque n'est plus incarné par un seul personnage, mais s'étend à tout le film, ça implique en retour un investissement supérieur de la part du spectateur qui doit faire attention à tous les détails qui se passe en même temps dans une seule image.
Absolument, et c'est pour ça que Playtime est son film le plus audacieux et, disait-il, Playtime sera toujours mon dernier film, c'est une expérience ultime de cinéma, puisque l'un des partis pris formels, c'est, dans ce choix du 70mm, de nous écraser par la dimension de l'image et de faire en sorte de faire cohabiter plusieurs gags à l'intérieur d'un même plan, de sorte que nous ratons systématiquement des choses dans l'image. Alors c'est vrai de tous les films, évidemment, mais là, sciemment, Tati va inventer 2-3 gags dans un même plan, de sorte que quand on observe un de ces plans, on rate celui qui est de l'autre côté. Et l'une des raisons, expliquée par Tati lui-même, dont on voit bien qu'il avait des difficultés à s'exprimer, mais en même temps qu'il est d'une extrême lucidité sur sa place dans l'histoire et sur ce qu'il est en train d'inventer en matière burlesque, c'est précisément de dire, moi ce que je veux, c'est que les gens se parlent dans la salle. Je veux créer du lien social pendant le temps de la projection. Son fantasme, c'était que les gens se montrent des endroits de l'écran où tout à coup, il ne fallait pas rater quelque chose.
Oui, il disait que c'était un film à regarder avec quelqu'un et parler avec son voisin.
Absolument, c'est un film fait pour qu'on parle dessus. C'est ce qu'il disait, ce qui est quand même dingue compte tenu du temps qu'il a accordé au mixage de ce film. L'ingénieur du son, Jacques Maumont, en avait un souvenir assez douloureux d'ailleurs, tellement c'était interminable. Enfin, parce que Tati est quelqu'un qui veut tout expérimenter, tout entendre pour pouvoir faire ses choix. Donc il a mis un soin absolu à travailler ses 6 pistes son pour à l'arrivée imaginer qu'en fait le spectateur est plus important encore que le soin qu'on apporte à la fabrication du film. Et que du coup, ce qui est formidable, c'est quand tout à coup un père et un fils dans la salle regardent l'écran et se montrent des gags qu'il ne faut surtout pas rater.
Oui, parce que chez Tati, le son est toujours plus important que les dialogues. Il y a très peu de dialogues au fond. Parfois, on ne les comprend même pas. C'est dans les langues étrangères. Donc c'est vraiment une possibilité pour le spectateur d'explorer, de s'approprier la scène qui est en train de se passer à sa façon, puisque le sens n'est jamais dicté.
Absolument. Alors, le sens n'est jamais dicté, y compris pour un choix qu'on n'a pas encore commenté, mais qui est très important, qui est le refus du gros plan et de toutes les échelles de plans rapprochés. C'est-à-dire que Tati privilégie largement le plan d'ensemble, donc où tout à coup, le personnage est noyé dans le décor, a fortiori dans Playtime, mais pas seulement. D'ailleurs, la disparition du héros dont on vient de parler, c'est une des caractéristiques immédiatement perçues par André Bazin dans le texte que j'évoquais tout à l'heure, Monsieur Hulot et le temps. À la fin des vacances de Monsieur Hulot, le personnage est enfermé dans une cabane avec les feux d'artifice, et tout à coup, il n'est plus dans le récit. Et d'ailleurs, le récit porte la mélancolie de sa disparition. L'enfant vient pleurnicher, la vieille dame est en train de le chercher partout et ne le trouve pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il a d'emblée vu que le burlesque avait aussi un revers mélancolique et qu'il fallait l'intégrer au récit. Aucun des films de Tati ne se termine sur l'acmé, tous se terminent sur une petite coda mélancolique à la toute fin du récit, en général liée à la disparition du héros. Et puis il y a vraiment cette idée que le burlesque doit pouvoir s'inventer avec le spectateur, que le spectateur est un des personnages principaux et que du coup ces fameux personnages d'observateurs qui sont à l'avant-plan, le dos tourné par rapport à nous, sont comme des spectateurs qui seraient allés voir de plus près et qui nous montrent le chemin. C'est-à-dire cette part d'invention qui doit être la nôtre pendant le temps de la projection.
Ce qui fait que la distinction entre la fiction, le cinéma d'un côté et la vie extérieure de l'autre ne tient plus chez Tati.
Alors absolument, alors ça, le symbole absolu de ça, c'est le désir de ne pas mettre de générique de fin à la fin de Playtime. Voilà. C'est-à-dire que tout à coup, alors que le film est long, ample, ambitieux, etc., qui a un générique tout à fait conforme en début de film, à la fin, il n'y a plus rien. Parce que il y a une explication fondamentale, c'est de travailler sur la disparition de la coupure entre le temps de la projection et le temps de la vie. Voilà, il faut fondre les deux. Et Tati disait, je veux que mon film commence quand vous quittez la salle. Et mine de rien, ça raconte vraiment quelque chose de son projet fondamental, qui est que le temps de la projection, notamment sur Playtime, mais pas seulement, c'est un temps de formation du regard. Tati, c'est un cinéaste pédagogue, ce qui par ailleurs est très paradoxal compte tenu de son parcours scolaire et de son obsession vis-à-vis de l'école, dont témoigne chacun de ses courts-métrages qui s'appelle L'école des facteurs, Cours du soir, etc. C'est la revanche du cancre, quoi. Et donc, le cancre, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Il va nous apprendre à regarder la vie autrement, de façon à la rendre plus intéressante, parce que sinon, on risque l'ennui. Voilà. Et pour ne pas s'ennuyer, il faut savoir observer. Pour savoir observer, il faut regarder chacun des détails. Et ça a à voir avec la position du cancre, puisque dans son autobiographie, qui paraîtra normalement en fin d'année dans un gros livre chez Taschen, il explique que là où il a commencé à regarder la vie sous un angle différent, c'est quand il était au coin. Et quand il était au coin, précisément, il arrivait à voir des choses qu'on ne voit pas quand on est au milieu de la classe, bien sage, assis à son pupitre. Parce qu'on commence à regarder que le maître a des chaussettes dépareillées, qu'il est en train de se gratter le genou, que voilà. Et donc cet angle ouvert va être une sorte de symbole de ce choix de l'écran large ou du plan d'ensemble, mais aussi de ce regard décalé sur le monde qui permet d'enrichir sa vision.
Et qui lui donne aussi, qui lui confère une portée philosophique assez surprenante, je dois dire. Écoutons, Jacques Tati lui-même, vous avez dit, il a des difficultés à s'exprimer. Pas toujours, là, vous allez le voir, c'était pendant Le Masque et la Plume, le 30 mars 68. Il fait rire tout le monde, c'est Monsieur Hulot sur scène. Suivi ensuite d'un extrait du rire de Bergson, vous verrez à quel point le texte semble être écrit pour décrire ce qui se passe dans Playtime.
Où on a le temps d'observer, de regarder et d'écouter, où on ne l'a pas. Moi, il y a des spectateurs qui m'ont écrit des lettres vraiment charmantes et qui m'ont touché. Ils m'ont dit, moi je suis employé, je travaille dans un bureau, j'ai vu Playtime, j'ai un petit sourire quand mon président directeur général rentre dans le bureau. Bon, ça me suffit, c'est ce que je demandais. J'ai l'impression que... on vit tout de même mieux en observant, vous voyez. Je crois qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps d'observer. Il n'y a plus que les agents qui ont le temps d'observer, parce qu'ils sont là. ils sont dans un carrefour, ils font juste un petit signe avancé, et ils regardent, et ils finissent par avoir de l'esprit. Les agents finissent par avoir
de l'esprit. Vous croyez ?
Et oui, mais j'ai vu une dame qui avait passé le feu rouge en Faubourg Saint-Honoré, très chic, avec sa petite voiture de sport, qui allait chercher un ton qui devait aller avec son chandail par rapport à ses chaussures. Enfin, elle était très pressée, elle avait passé le feu rouge. Et un agent, un jeune agent, d'ailleurs, très nouvelle vague, le képi un peu relevé, s'est approché, il lui a dit « Je m'excuse, madame, nous n'avons pas plus rouge. Ouais. » C'est pour vous dire. Alors... je ne m'ennuie jamais à une terrasse de café, parce que vous pouvez me donner rendez-vous et avoir un quart d'heure de retard, je vous attraperai pas. J'ai peut-être vu le meilleur film de la semaine. Alors moi, j'essaie justement d'ouvrir une fenêtre et que les gens regardent. Je leur mets pas les points sur les i. C'est fait, je crois, sans aucune prétention.
Bon, alors, vous êtes annoncé, voilà. Ok, restez assis, attendez tranquillement, si vous permettez, pour notre collège.
Ce que la vie et la société exigent de chacun de nous, c'est une attention constamment en éveil, qui discerne les contours de la situation présente. C'est aussi une certaine élasticité du corps et de l'esprit qui nous met à même de nous y adapter. Tension et élasticité, voilà deux forces complémentaires l'une de l'autre que la vie met en jeu. Mais la société demande autre chose encore. Il ne lui suffit pas de vivre, elle tient à vivre bien. Ce qu'elle a maintenant à redouter, c'est que chacun de nous, satisfait de donner son attention à ce qui concerne l'essentiel de la vie, se laisse aller pour tout le reste à l'automatisme facile des habitudes contractées. Ce qu'elle doit craindre aussi, c'est que les membres dont elle se compose, au lieu de viser à un équilibre de plus en plus délicat de volonté, qui s'inséreront de plus en plus exactement les unes dans les autres, se contentent de respecter les conditions fondamentales de cet équilibre. Un accord tout fait entre les personnes ne lui suffit pas. Elle voudrait un effort constant d'adaptation réciproque. Toute raideur du caractère, de l'esprit et même du corps, sera donc suspecte à la société, parce qu'elle est le signe possible d'une activité qui s'endort et aussi d'une activité qui s'isole, qui tend à s'écarter du centre commun autour duquel la société gravite, d'une excentricité enfin. Et pourtant, la société ne peut intervenir ici par une répression matérielle, puisqu'elle n'est pas atteinte matériellement. Elle est en présence de quelque chose qui l'inquiète, mais à titre de symptôme seulement. À peine une menace, tout au plus un geste. C'est donc par un simple geste qu'elle y répondra. Le rire doit être quelque chose de ce genre, une espèce de geste social. Par la crainte qu'il inspire, il réprime les excentricités, tient constamment en éveil et en contact réciproque certaines activités d'ordre accessoire qui risqueraient de s'isoler et de s'endormir, assouplit enfin tout ce qui peut rester de raideur mécanique à la surface du corps social.
Béton armé, soleil en berne, homme des nouvelles cavernes, voilà ce que nous devenons. Dieu pardonnez-moi si j'en tremble, j'avais rêvé de grands ensembles.
Ensemble est un si joli nom.
Du ciment à l'horizontale, du ciment à la verticale, et puis le vacarme têtu. Ces grands ensembles sont si rudes que je rêve de solitude comme d'un paradis perdu.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h32, c'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée au grand Jacques Tati. Et aujourd'hui, c'est de Playtime que nous parlons en compagnie du critique de cinéma et maître de conférences en cinéma à l'Université de Paris 1, Stéphane Goudet. Vous êtes en train d'écouter Les Frères Jacques, béton armé, qui date de 67, année de sortie du film Playtime et qui reprend mot pour mot, comme le texte de Bergson d'ailleurs, la trame narrative de Playtime.
Béton armé, soleil en berne, homme des nouvelles cavernes, voilà ce que nous devenons. Si vous n'y mettez pas bon ordre, mon Dieu, la vie si bonne à mordre ne méritera plus son nom. Dieu, faites-moi changer d'adresse et faites que le vent caresse encore une fois mes mains nues. Du vent, tu verrais pas cette grâce qui nous fait le cœur dégueulasse en ramenant les avenues.
J'ai besoin d'air, Dieu me pardonne, de celui que le ciel donne
en passant par l'odeur des prés.
Et si un jour la mort m'empoigne, que ce soit en rase campagne, avec de l'air, mon Dieu, du vrai.
Une chose est de savoir si Tati est réactionnaire. Vous avez cité Stéphane Goudet, un article voilà, qui s'interrogeait à la sortie de Mandon, de savoir est-ce que Tati est réactionnaire ou pas, est-ce qu'il critique la modernité ou s'en fait l'apôtre déguisé. Une autre, et finalement c'est beaucoup plus intéressant d'y penser de cette manière-là, et de savoir dans quelle mesure les films qu'il propose est une forme de critique cette fois-ci sociale et non pas politique. Le texte de Bergson, donc, qui se situe au début de son livre intitulé « Le rire », décrit la façon qu'a le rire d'assouplir la raideur mécanique à la surface du corps social. Le rire comme forme de sanction sociale en réalité. Ce qui est trop raide, ce qui n'est pas fluidifié au sein de la société doit être sanctionné par le rire. C'est en réalité ce qu'on observe dans Playtime, où finalement il y a une espèce de décalage entre la raideur du corps qu'on a entendu, hein, le corps du monsieur qui vient à la rencontre de Hulot, qui traverse comme ça pendant, je sais pas, 2 minutes l'écran, qui vient à la rencontre du spectateur avec le bruit de ses semelles qui crie, on dirait le bruit d'une machine à écrire, et puis tout d'un coup le dysfonctionnement. C'est le secret du burlesque qui a une portée, on le voit avec Bergson, philosophique extrêmement importante.
Oui, absolument, et alors la scène couvre ce plan-là, et exactement l'illustration de ce passage de Bergson. C'est-à-dire qu'effectivement, le, contra- contraste là, c'est entre la machine ou l'automate et le corps vivant, y compris avec ses lapsus, ses gestes à côté. Enfin, le monsieur Hulot qui ne trouve plus le papier, qui est obligé d'avoir l'aide du vieux monsieur qui tout à l'heure appuyait sur les boutons pour pouvoir savoir où était sa lettre de recommandation. Et juste derrière, Hulot va être enfermé dans la cabane de verre, dans la prison de verre que certains ont appelé l'aquarium à la sortie du film, et où là, tout à coup, va se produire quelque chose qui va de nouveau être confronté avec un autre automate, Mr. Lax, avec des dimensions là, pour le coup, aussi politiques ou géopolitiques, puisqu'il est anglo-saxon. Et le personnage de Monsieur Hulot va se figer entièrement. Et donc, cette fois, c'est lui qui va disparaître alors qu'il est dans l'image pour laisser place à une sorte de solo de gestes et de bruits qui se substitue évidemment à la parole. Et ce qui est assez fascinant dans les retournements que cette séquence génère, c'est que tout à coup, Monsieur Hulot devient une espèce de doublon des portraits photographiques qui ornent cette pièce-là, qui sont des portraits des dirigeants. Donc on voit bien que ces photographies, au départ, sont là pour surveiller l'intrus, le personnage qui n'a pas sa place dans ce monde-là de l'entreprise moderne. Et tout à coup, comme si on retournait le gant, Monsieur Hulot va devenir l'homme qui incarne cette fois le bon sens et qui va s'étonner de la raideur absurde du personnage parfaitement intégré dans la société contemporaine que représente Mr. Lax, qui évidemment va être accueilli avant lui dans le bureau de celui qu'il est venu rencontrer. Voilà, parce que tout à coup, c'est priorité accordée aux Américains, aux capitaux, puisqu'il finira par faire un chèque, à l'étranger, etc. Voilà, il y a aussi cette dimension-là sociopolitique. Voilà, donc bien sûr qu'il y a ce contraste entre l'humanité représentée dans ce même extrait par le gardien, qui vous l'avez entendu, de temps en temps expire la fumée, parce que lui sait que le temps de traverser de ce couloir interminable, il a le temps de s'en griller une. Voilà. Et il le fait dans le recoin, parce qu'il sait qu'il a aussi le temps de dissiper la fumée, et donc de laisser place à ce petit péché véniel, sachant que dans le film Playtime, ce fameux automate qui vient du bout du couloir finira par se révéler être lui-même susceptible de s'adonner à quelques plaisirs mystérieux, en tout cas cachés, puisqu'il va boire dans le dos de sa propre belle-mère à l'intérieur des appartements vitrines.
Oui, Monsieur Hulot n'a pas le monopole de la raideur, ça c'est sûr. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que chez Tati, le burlesque n'était plus incarné par un seul personnage, mais était finalement contaminer le film dans son entier, dans son intégralité. Mais le corollaire de ça, c'est aussi que finalement l'exclusion dont parle Bergson dans son texte, même que reprenaient les frères Jacques à leur façon dans la chanson, l'espèce de solitude de celui qui va être un peu raide dans cet univers de béton armé, de cette société dans laquelle il a du mal à s'intégrer, on la retrouve, disons, à d'autres échelles, à d'autres niveaux que celle de Monsieur Hulot tout seul. C'est-à-dire que dans la seconde partie du film, quand on est dans une espèce de restaurant où les touristes américains arrivent, parce que ça, on l'a pas dit, mais quand même, le fil conducteur, ce sont les touristes américains qui arrivent à l'aéroport d'Orly, qui vont être là jusqu'à la fin du film, bien, cette fois-ci se joue, il y a comme une mise en scène d'un nouvel espace social où cette fois-ci les rencontres peuvent avoir lieu, alors que jusqu'à présent les hommes étaient très isolés.
Absolument. Alors le film est vraiment construit sur cette opposition-là, y compris sur une opposition géométrique. Enfin, il part vraiment d'une ligne droite permanente qui structure à la fois le rapport à l'architecture, mais aussi les déplacements des corps. Et quand Tati, on lui demandait de résumer le film, souvent il demandait un stylo, un crayon, et il commençait à faire une espèce de schéma qui ressemble à l'arrivée à un Paul Klee, puisque son assistante nous l'a reconstitué. Et c'est assez étonnant. Et lui-même concluait en disant, mais vous voyez, c'est un tableau moderne en fait. Playtime, c'est un tableau moderne. Et c'est purement géométrique, abstrait. Et donc, de ces lignes droites, progressivement, on va redécouvrir la vertu du cercle qui, pour le coup, dans ce film-là, ça n'est pas valable dans tous les films de Tati, mais a à voir avec la refondation d'une convivialité possible, a à voir avec un être ensemble. Et donc, dans la deuxième partie de Playtime, quand on glisse du côté du Royal Garden, là, on commence à redécouvrir...
C'est le nom du restaurant,
Le nom du restaurant. On commence à redécouvrir que, finalement, toutes ces apparences-là qui nous gouvernent, toutes ces décisions d'architectes qui nous impose de tourner à angle droit pour sortir d'un bâtiment, fondamentalement ne sont pas au service de l'humain, mais que quand on se réapproprie l'espace, là, il y a la possibilité d'une rencontre. Voilà. Et la deuxième partie de Playtime raconte vraiment ça, y compris sous l'angle social, puisque ce restaurant du Royal Garden, c'est quand même un espace de tri social, a priori, c'est-à-dire qu'on va surveiller les entrées et il y a des gens qui, a priori, devraient en être exclus. Et parmi les exclus, il y a le musicien noir. On voit bien qu'il est exclu sans doute pour sa couleur de peau et qu'on imagine qu'il n'a pas cette place, sa place dans cet espace. Mais il y a aussi Monsieur Hulot qui s'est pris un poteau et qui du coup chancelle et qu'on imagine être ivrogne. Il y a aussi d'autres gens qui sont comme ça, des démunis ou des gens dont l'attitude ou le vêtement implique qu'ils ne devraient pas être à cet endroit-là. Et en fait, l'un des enjeux de Playtime, c'est de réouvrir cet espace, c'est-à-dire d'embrasser toutes les couches de la population et de favoriser, y compris le geste artiste, c'est-à-dire qu'il y a un photographe, il y a un peintre, il y a des musiciens qui rentrent presque comme ça en cachette ou sans qu'on puisse éviter leur entrée, de sorte qu'on reconstitue voilà l'esprit de Paris, puisque évidemment Playtime c'est aussi un film assez incroyable sur comment, malgré les aspects négatifs de la modernité, on arrive à recréer du lien social et à refaire communauté.
Voilà, de même que le vide des espaces au début du film s'oppose au plein du restaurant, la construction permanente architecturale du film s'oppose à une forme de déconstruction, notamment au sein de ce restaurant Royal Garden, puisque l'extrait qu'on va entendre, c'est le moment où le plafond s'effondre tout simplement. Du coup, la musique s'interrompt. Suspense, que va-t-il se passer ?
C'est toujours la même chose. Laissez passer immédiatement tout ça.
Poli, c'est trop. C'est fine, merci.
Merci de votre service. On va aller à lui. On a pour ça.
Ah, le bête, comme un peu. Qu'est-ce qu'il y a? What's happened here?
Des étrangers qui viennent visiter, enfin qui sont en transit pour passer 24 heures à Paris, et s'aperçoivent en arrivant à Orly que l'aéroport d'Orly ressemble beaucoup à celui d'Hambourg, et comme celui d'Hambourg ressemble énormément à celui de New York, on se demande pourquoi aujourd'hui on voyage. Alors après cela, ils prennent une grande route qui les conduit à Paris où il y a à peu près les mêmes lampadaires pour trouver les buildings que vous voyez ici, et qui sont à peu près ceux de Munich, enfin
De Duras, de Milan, etc.
Et en fait, si vous voulez, moi j'essaie de défendre la personnalité, l'individu. Et petit à petit, dans ce décor très moderne, ils vont tout de même avoir affaire aux Parisiens. C'est-à-dire qu'on va de nouveau retrouver Monsieur Marcel avec son tournevis, qui vient à chaque fois qu'on a besoin d'une réparation, et heureusement, il y en a toujours besoin. Et une certaine personnalité de gens qui, dans le fond, se sont installés dans le décor d'Orly avec la même gentillesse, enfin ce que j'espère, que si c'était la petite gardanière. Et c'est ce que j'essaie de défendre, c'est que, dans le fond, l'architecture ne doit pas tellement changer la nature des personnages qui vivent dans cette architecture.
Alors c'est le groupe E. Hein, vous prenez. Alors bon, vous pouvez aller avec mademoiselle, s'il vous plaît. Oui,
Alors comme souvent chez Tati, on a d'un côté un positionnement idéologique dans le bon sens du terme, une thèse, une vision du monde assez forte, à savoir il faut essayer de sauver l'individu au sein de l'architecture, non pas tellement dénoncer l'architecture, mais défendre l'individu, dit-il, de manière à ce que l'architecture ne vienne pas changer les personnages qui y vivent. Et de l'autre, c'est une manière d'ancrer ce propos-là dans le monde contemporain. En l'occurrence ici, le fait que ce soit les Américains qui arrivent n'est pas anodin, puisque ici Tati est le reflet d'une époque, des jours de fête, avec l'américanisation de la société française, Stéphane Goudy.
Bien sûr, c'est d'autant plus frappant que dans le scénario original, les touristes étaient suédoises. Donc il y a vraiment eu une prise de conscience que fondamentalement c'était pas de ça que parlait le film, c'était pas seulement de cette mondialisation un peu anonyme, mais que ça venait vraiment des États-Unis. Et donc effectivement, ce film, de ce point de vue, dialogue avec Jour de fête. Il y a vraiment une histoire des relations franco-américaines à l'intérieur des films de Jacques Tati. Donc ce qui est fascinant dans le commentaire que donne Tati, c'est que voilà, ce dont parle Playtime fondamentalement, c'est comment retrouver une identité. Cette identité, elle vaut à titre individuel, donc la personnalité qu'il évoque là, le petit vieux face à la machine au bouton, mais aussi bien là, les gens qui fréquentent le Royal Garden, et elle vaut à titre collectif, national aussi. Hein. Il y a une question d'identité nationale.
Il parle des étrangers, mais finalement, nous sommes tous des étrangers quand on est dans Playtime.
Bien sûr, bien sûr. Alors, donc la question du coup, c'est comment retrouver une part de cette personnalité nationale qui fait la singularité de la France, comme elle ferait la singularité d'un autre pays. Et donc là, ce dont parle le film là-dessus, c'est, et il l'évoquait tout à l'heure, c'est la façon dont tout à coup le monde entier est en train de se ressembler. Il n'y a plus d'ailleurs. Du coup, on est dans une espèce de monotonie absolue. Et donc, il le dit lui-même, à quoi bon voyager ? C'est-à-dire, si vous allez à l'autre bout du monde et que finalement la capitale à l'autre bout du monde est strictement identique à celle que vous venez de quitter, c'est évidemment l'ironie formidable de la visite de l'agence de voyage qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire que les touristes viennent 24 heures à Paris, elles vont passer trois quarts d'heure dans une agence de voyage où on va voir par ailleurs des affiches avec des buildings systématiquement le même et un détail pittoresque, folklorique, qui vient singulariser le pays dans lequel elle pourrait aller. Voilà.
Un palmier pour Miami, la tour Eiffel pour Paris, voilà, avec le bâtiment identique à côté.
C'est ça, voilà. Donc là, on voit bien que c'est une question qui nous parle, nous, de façon très très forte aujourd'hui. C'est-à-dire que l'uniformisation que décrivait Tati et qui passait pour lui par le style international, on la vit au quotidien. C'est pour ça aussi qu'il y a une dimension visionnaire dans Playtime. C'est-à-dire quand on voit, nous, dans nos villes, que les mêmes enseignes s'organisent pour squatter les centres-villes de façon strictement identique dans toutes les villes de province françaises, mais qu'on trouve les mêmes dans des malls à l'autre bout du monde, on se dit, mais Tati a vu là quelque chose avant tout le monde, qu'on vit au quotidien et qu'aucun autre cinéaste a monté de façon aussi opérante. Voilà. Et donc, dans Playtime, il y a vraiment ce souci de dire, voilà, il faut défendre à la fois l'identité des personnages, cette identité des personnages, elle passe par un horizon absolument formidable qui est la réification de l'humain. Voilà. Dans Playtime, les arrière-plans de la première partie sont habités par des photographies presque grandeur nature. Et là, on voit bien que c'est une espèce de promesse. C'est-à-dire que si vous continuez à être aussi raide dans la société, pour reprendre la citation de Bergson, si vous continuez à ne pas penser à votre humanité, vous allez être réifié, vous allez devenir des êtres à deux dimensions. Vous perdez toute profondeur, y compris toute profondeur historique. Et donc, l'enjeu de Playtime, c'est de réinventer cette troisième dimension, de réinscrire le corps dans son histoire et du coup de lui donner de nouveau du relief de manière à ce qu'il puisse là, s'affirmer comme singularité.
Et ça passe par une réflexion sur l'architecture, certes, puisque en fait, dans le film, Tativille, le studio qui a été construit pour le film, est sans arrêt en construction lui-même. Il y a des ouvriers partout. Tati évoquait Marcel et son tournevis, hein, ouais, qui vient dès qu'il y a un problème. On a entendu la scène où le plafond s'effondrait. Toute cette scène au Royal Garden, cette séquence qui est très très longue, tout est en construction. Le sol, on marche dessus. Il y a une partie du sol qui reste collée à la semelle du serveur, ce qui donne lieu à un gag de la même façon. Donc il y a une forme de déconstruction de la ville, qui va de pair aussi avec une espèce de refocalisation sur Paris. Et c'est pas pour rien que du coup les touristes sont aussi importants, puisque finalement ils arrivent à Paris, et une des premières phrases qu'ils disent c'est « But where are the monuments ?» Où sont les monuments ? Parce que finalement, ils semblent être très 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 loin du centre-ville. Ce tourisme en fait ne vient pas à la rencontre des bâtiments ou de la ville, mais à la rencontre d'eux-mêmes, d'où les miroirs et les vitres partout.
Absolument, les monuments existent dans le film uniquement par reflet sur les surfaces, ouais, vitrées, et on voit bien là qu'ils sont dans une espèce d'hors-champ permanent, et que ceux avec quoi il dialogue, c'est la figure de la carte postale. C'est-à-dire que Paris est totalement virtualisé, c'est la même chose que les corps en deux dimensions. C'est-à-dire que la ville n'existerait que sur une surface plate par le biais de photographies représentées. Donc là, évidemment, il s'agit de redonner là aussi du relief à la ville pour pouvoir lui redonner du corps, enfin. Et donc, et c'est pas pour rien qu'à la fin de Playtime, un des tout derniers gags, c'est de recreuser sous la surface du béton pour aller rechercher de la terre, quoi. Sachant que toute la nature a été bannie pendant tout le film et va être cantonnée à jouer les figurants par le biais de figures métaphoriques. On pense à une courbe de chiffres qui tout à coup devient une espèce de branche d'arbre. On pense à une chenille qui est représentée par de mouvements de corps de gens qui passent d'un bus à l'autre. Voilà, c'est-à-dire que la nature n'est plus présente que par la métaphore. Elle a été totalement exclue, de même que la ville n'existe plus que par sa virtualisation dans les reflets sur les panneaux de verre.
Avec cette dernière scène magnifique où autour du rond-point, il y a un embouteillage qui est filmé à la manière d'un manège.
Voilà, et là, évidemment, c'est le sens qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le sens presque pédagogique, hein, le sens de la métamorphose du regard du spectateur. Tati évoquait tout à l'heure le mobilier urbain à la sortie de l'aéroport, c'est la même chose. Dans un premier temps, on voit des lampadaires au tout début, à la fin du film, ça devient des bouquets de muguet. Même chose, l'embouteillage qui devrait être vu de façon critique, très agaçante pour le Parisien, devient un formidable retour à l'enfance et au manège de notre enfance.
T'achètes des disques américains, t'achètes des disques afro-cubains, t'achètes des disques mexicains et quelques tambours et tahitiens. Tu te croirais déshonoré d'acheter des disques en France.
Merci beaucoup Stéphane Goudet d'être venu nous parler de Tati aujourd'hui.
Merci à vous.
C'est un grand plaisir de vous écouter en parler et vous filez à La Rochelle pour un festival qui n'est pas sans lien avec le sujet de cette semaine.
Non, parce que Trafic sera présenté en fin de semaine par Jérôme Deschamps et par ailleurs il y a une intégrale Bellocchio, Siaoussienne, la famille Marc Malbaff, une rétrospective intégrale Visconti, enfin voilà, des choses absolument formidables. C'est vraiment le meilleur festival autour du cinéma de patrimoine en France avec le festival Lumière de Lyon.
Eh bien c'est noté, Jérôme Deschamps qui sera mon invité mercredi prochain qui viendra parler de Mon Oncle. Pour l'heure vous écoutez France Culture, les nouveaux joints de la connaissance, il est 10h50. Une. Encore deux minutes papillon, il est l'heure de retrouver Géraldine qui a réussi à entrer en studio en appuyant sur les boutons. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Vous restez dans l'univers mécanisé, non pas vraiment, plutôt
moderne, numérique. En fait, toute cette semaine, je vais m'attacher à des ouvrages qui sont parus cette année et qui nous auraient échappé. Et donc le premier, c'est Dans la nuée, réflexion sur le numérique de Byung-Chul Han et qui est paru aux éditions Actes Sud. En 2013, Skype, vous voyez Adèle, ce logiciel gratuit qui permet d'appeler sur Internet ses proches, même au bout du monde, fêtait ses 10 ans. Et alors à cette occasion, un auteur, Andreas Bernhard, remarquait, je cite, que si la vidéotéléphonie produit l'illusion de la présence, un reste de distance est toujours sensible dans le léger décalage du regard. Car lorsqu'on se concentre sur les yeux du visage qui apparaît à l'écran, l'interlocuteur a l'impression que l'on regarde légèrement vers le bas, puisque la caméra est installée sur le bord supérieur de l'écran d'ordinateur. Et bien cette distance qui perdure malgré toute cette technologie qui prône la connexion immédiate, c'est sûrement le tout dernier reste d'un ancien modèle, celui qui nous reliait à l'autre et qui reposait sur l'écart, le regard et le respect. Ce modèle-là, le numérique l'a donc profondément modifié, mais pour aller vers quoi ? Et bien la question reste en suspens selon le philosophe Byung-Chul Han, car pour l'instant, l'heure est plutôt pour lui au décortiquage de tout ce que le numérique effrite. Avec cet ouvrage, le philosophe continue donc dans sa lancée critique qui consiste à déchiffrer toutes les modifications à l'œuvre dans la modernité comme celle du numérique. Mais ce serait trop peu de dire ça quand même, car toute l'originalité consiste ici à s'attacher aux mots M-O-T-S, à revenir à leur sens originel pour en évaluer les remous et proposer une nouvelle grille de lecture. Et le plus frappant ici, c'est bien celui de nuée qui donne son titre au livre et que Byung-Chul Han réinvestit pour le substituer à celui de masse. Si jusqu'ici on avait stigmatisé la modernité par sa production des masses, désormais c'est plutôt celui de nuée, celui d'un attroupement sans lien qui pourrait prévaloir, une autre manière donc de renouveler la pensée critique de notre époque.
Je me demande ce que Tati aurait eu à dire sur Skype. Hein. Je pense qu'il se serait bien amusé avec cet objet. Je
sais pas avec les yeux baissés sur le bas de l'écran.
Exactement, et la façon tout communique, hein, y compris de manière virtuelle. Alors Géraldine, le titre de l'ouvrage
Dans la nuée, réflexion sur le numérique, c'est de Byung-Chul Han et c'est paru aux éditions Actes Sud.
Merci, c'est noté. À demain Géraldine, à demain tout le monde, car le Nouveau Chemin s'achève pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à Jacques Tati. Demain, ce sera le philosophe Elie Düring qui viendra vous proposer un voyage vers le rétrofuturisme à partir notamment de Trafic, mais pas seulement. Rendez-vous demain à 10h donc, et d'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les indications bibliographiques et cinématographiques concernant l'émission du jour, les ouvrages de mon invité, puis aussi l'intégrale Tati coffret DVD à se procurer absolument, parce qu'on y trouve tout avec des très bons bonus. C'est vraiment, si vous aimez Tati, vous voulez le découvrir, procurez-vous cette intégrale Tati. Et puis vous pouvez aussi télécharger, podcaster cette émission en vous rendant toujours sur le site de France Culture. Et on vous donne rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter, où on attend vos commentaires et remarques.